Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment créer des souvenirs heureux? Un texte de Rose-Aimée Autonne T. Morin, paru le 24 juin 2025 dans la presse. Les souvenirs de vacances, heureux ou non, jouent un rôle dans notre vie. Je me souviens de me réveiller dans un motel du bas du fleuve et d'observer le large en me demandant si les pointes blanches étaient des vagues ou des bélugas. Je me souviens de journées passées à nager dans la piscine, en regardant les parachutistes fendre le ciel de Farnham. Je me souviens de fêtes nationales en famille, de feux de joie. Je me souviens d'états que je ne savais pas nommer à l'époque, de plénitude, de liberté, de tendresse. J'ignore si mes parents avaient conscience que ma mémoire retiendrait longtemps ces moments plutôt anodins. Peut-être qu'ils croyaient qu'il fallait m'emmener à Disney pour engendrer des souvenirs pérennes, voire qu'ils associaient un certain échec à la douce banalité de nos jours. Pourtant, ces souvenirs influencent toujours positivement mes étés. La docteure Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue, s'intéresse à la force des souvenirs. Pour elle, ces expériences passées qu'on emmagasine en soi colorent peu à peu qui on est. Les revisiter, qu'elles soient heureuses ou non, nous permet une certaine prise de contrôle sur notre quotidien. Avant de découvrir comment passer à l'action, revenons à la base. Pourquoi traîne-t-on certains souvenirs plus que d'autres? On retient souvent des moments qui ont répondu à nos besoins psychologiques, soit des instants où on s'est senti particulièrement connecté à autrui, compétent ou autonome, m'explique la psychologue. La professeure associée à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, donne l'exemple d'une personne qui se souvient d'un parent venu l'encourager pendant une partie de volley-ball. Peut-être que ce parent était très peu présent et qu'à ce moment-là, le besoin psychologique de l'enfant a été rempli. L'instant est heureux, le portrait global, un peu moins. Il y a également des souvenirs qui sont très beaux, dit Geneviève Beaulieu-Pelletier. Si on parle des vacances, il y a des gens pour qui c'était des moments de chaleur et de rassemblement. Ici encore, ça venait satisfaire leurs besoins psychologiques. C'est quelque chose qui alimente leur façon de voir la vie. Ces souvenirs influencent peut-être comment ils vont vouloir vivre les vacances avec leurs enfants, par exemple, poursuit la docteure Beaulieu-Pelletier. Elle est là, toute l'utilité des souvenirs. On a des expériences qui nous ont enseigné plein de choses, poursuit la psychologue. C'est important d'avoir ce bagage-là pour se positionner par rapport au présent. Qu'est-ce que je veux reproduire? Qu'est-ce que je ne veux pas reproduire? Le moment est bon pour se poser la question, puisque l'été est particulièrement fertile à la création de souvenirs. La routine est moins rigide, ce qui laisse place à un peu de nouveauté. Quand on sort du mode pilote automatique, les souvenirs s'inscrivent plus facilement en nous et les besoins psychologiques, eux, sont plus aisément satisfaits. Pensons à une randonnée en famille. Il est probable que tout le monde soit plus relax qu'un soir de semaine chargé et que la connexion entre les proches soit plus grande. Il y a aussi des chances qu'on se sente compétent en relevant un défi physique et autonome devant la douce liberté de l'escapade. OK, ça se peut qu'il pleuve, que quelqu'un se blesse ou qu'un membre du groupe pète une coche parce qu'il a faim. Mais bon. Plusieurs éléments sont théoriquement en place pour créer un souvenir joyeux. Cette randonnée sera même un investissement pour l'avenir. Quand on y repensera, Le souvenir réactivera la satisfaction et le bien-être qu'on a ressenti à l'époque. C'est là que le souvenir a une force intéressante, croit Madame Beaulieu-Pelletier. Quand on fait des études sur le souvenir, on voit à quel point ça vient jouer sur notre humeur, même 3 mois ou 1 an plus tard. Si les souvenirs heureux peuvent adoucir notre humeur, je plaiderais que l'humanité entière a besoin de plus de moments significatifs, dont ce souvenir. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut favoriser la création de tels instants. Et, encore une fois, ce n'est pas nécessaire de voir grand. Un simple feu de camp peut faire l'affaire, selon la docteure Beaulieu-Pelletier. L'idée, c'est, est-ce qu'on peut créer des moments où on va prendre le temps d'être ensemble sans être stressé? Tu sais, juste faire un câlin lors de petits moments, ça vient nous déposer davantage dans l'ici et maintenant, poursuit l'autrice de trucs de psy. On peut même dire aux gens avec qui on est, je vais me rappeler ça toute ma vie pour les encourager à être dans le moment présent aussi. Ma mère, elle, m'invite souvent à prendre des photos dans ma tête pour créer des souvenirs qui dureront longtemps. Ce que ta mère a compris, c'est l'importance de créer une représentation à laquelle tu pourras te référer plus tard, observe la docteure Beaulieu-Pelletier. Et ça, c'est vraiment très précieux. Or, il arrive que les souvenirs de vacances soient malheureux et qu'on n'ait absolument pas envie d'en revoir tes photos mentales. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas revisiter leurs souvenirs parce qu'ils sont associés à du négatif, convient Geneviève Beaulieu-Pelletier. Mais c'est tellement riche de le faire. Si un souvenir est plus traumatique, c'est sûr qu'on ne se sentira pas très bien en y repensant, mais si on l'évite tout le temps, ce souvenir va toujours se réactiver aussi fortement. Alors que si on s'arrête, qu'on essaie de le comprendre et d'observer qu'il y a eu certains manques, on peut y faire face tranquillement et voir qu'on n'est pas obligé de perpétuer ça. Nous, on peut créer de nouvelles façons d'être en vacances. Ça nous donne un grand contrôle. Parce que les nouvelles expériences, elles vont devenir de futurs souvenirs. Chaque minute de notre existence, on crée de potentiels souvenirs. L'avenir nous appartient au moins un peu. C'est rassurant, non? C'était « Comment créer des souvenirs heureux », un texte de Rose-Aimée Autonne-Témorin, paru le 24 juin 2025 dans La Presse.
Notre histoire vue par les fenêtres. Un texte de Mario Girard, paru le 11 juin 2025 dans La Presse. 6 mois après son arrivée à la tête du Musée national de l'histoire du Québec, Maxime Pedneau-Jobin fait le point sur ce projet d'envergure dont le mandat et le caractère suscitent déjà plusieurs appréhensions et interrogations. Dans une lettre envoyée mercredi aux médias, le directeur général donne un aperçu de la direction qu'empruntera ce musée qui sera logé dans le splendide bâtiment du pavillon Camille Roy du séminaire de Québec. Rappelons que ce musée devait être la pierre angulaire du réseau des espaces bleus, un projet qui a été abandonné en mars 2024. Lors d'une entrevue que j'ai réalisée avec lui, Maxime Pedneau-Jobin a abordé divers aspects de ce projet qui préoccupe depuis sa création les spécialistes du monde muséal, de même que des représentants des premiers peuples et de divers groupes multiculturels. Comment ce musée racontera-t-il notre histoire à travers toutes ses voies? Maxime Pedneau-Jobin nous répond. Le fait que plein de gens s'expriment, c'est très utile. Ça vient souligner tous les pièges qui sont devant nous, et il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'une nation? Quand est-ce qu'elle commence? Qui en fait partie? Qui en fait partie en 2025 et qui n'en faisait pas partie en 1608? C'est complexe. Pour résoudre ce casse-tête, l'équipe du musée propose une approche basée sur les fenêtres qui sera appliquée dans toutes les expositions. Par exemple, si on parle de la mort de Montcalm sur les plaines d'Abraham, une fenêtre montrera la version des Français et la fin d'un certain rêve, explique Maxime Pedneau-Jobin. Une autre fenêtre montrera la version des Anglais et le début de la grande aventure britannique en Amérique du Nord. Enfin, une fenêtre dira que les Autochtones perdent leur principal allié depuis 150 ans. Le citoyen fera sa propre lecture de l'événement. C'est une façon de respecter son intelligence et la complexité de l'histoire. Tiens, puisqu'on parle du visiteur, à partir de quelle époque amorcera-t-il son parcours? Maxime Pedneau-Jobin explique « Quand les Français arrivent, le territoire est habité. On va commencer par ce territoire. La place des Autochtones sera là dès le début. » L'ancien collaborateur de la presse insiste sur le fait que la nation québécoise, en 2025, possède plusieurs racines, mais que sa racine principale demeure l'arrivée des Français. Si on parle français aujourd'hui, c'est parce que des Français sont arrivés ici il y a 4 siècles et demi. D'ailleurs, l'une des expositions temporaires qui marqueront l'ouverture du musée portera sur la langue française. Qu'en sera-t-il des anglophones et de tous les groupes ethnoculturels qui ont contribué à l'histoire du Québec? Maxime Pedneau-Jobin s'aventure et évoque l'idée que les visiteurs auront d'abord droit à un vaste tableau du Québec d'aujourd'hui avant de plonger dans le passé. Celui qui a été maire de Gatineau pendant 8 ans croit que son expérience en politique lui sera très utile dans l'exercice de ses fonctions. Il ne fait aucun doute qu'il affrontera un lot de critiques et de points de vue divergents. Tous les grands enjeux contemporains ne pourront pas être réglés par des individus au niveau international. L'échelle nationale est celle qui peut nous donner de l'espoir. Ça prend un certain « nous » qui va nous permettre de prendre des décisions ensemble. Il faut trouver une façon de parler du collectif de façon rassembleuse. Artefact ou numérique? Maxime Pedneau-Jobin a passé plusieurs semaines à travailler seul dans un bureau du pavillon Jérôme de Mers du séminaire. Il a ensuite embauché des cadres. « J'ai ouvert un compte de banque et fait une demande de carte de crédit », raconte-t-il. « On partait de zéro. » Les cadres embauchés ont créé une fusion avec des employés du Musée de la civilisation. Ils sont maintenant des employés du Musée national de l'histoire du Québec. Au total, c'est une 30aine de personnes qui travaillent en ce moment à créer cette nouvelle entité et qui ira rejoindre les autres musées nationaux du Québec. Pendant ce temps, une équipe supervisée par la Société québécoise des infrastructures s'affaire à transformer ce bâtiment afin qu'il puisse accueillir ses premiers visiteurs en juin 2026. Pour le moment, on parle toujours d'un budget de 92 millions de dollars, montant préalablement établi. Le budget récurrent sera de 11 millions par année durant les 4 premières années. Maxime Pedneau-Jobin a lu ma chronique sur le Centre des mémoires montréalaises, MEM, et les musées d'histoire de Montréal. Ce fut l'occasion de parler avec lui des approches adoptées par ces institutions, soit celle qui privilégie la présentation d'artefacts et l'autre qui met de l'avant une présentation ludique basée sur les nouvelles technologies. Quelle avenue empruntera le Musée national de l'histoire du Québec? Il faut savoir que ce musée devra puiser dans diverses collections, notamment dans celle du Musée de la civilisation, pour créer ses expositions, permanentes ou temporaires. Il n'est pas question pour le moment de constituer une grande collection pour le futur musée. L'autre aspect important qui aura un impact sur le caractère de ce musée est que le bâtiment, vieux de 170 ans, compte 200 fenêtres. Cela limite la présentation d'artefacts anciens. À peu près 40 % de l'espace est en condition muséale, explique Maxime Pedneau-Jobin. C'est-à-dire qu'on peut y mettre des objets en toute sécurité. On sera dans un musée plus traditionnel avec des objets. Mais dans les autres espaces, ça sera plus numérique et immersif. La technologie nous permet d'aller plus loin dans la transmission de contenu. En même temps, les gens veulent du vrai. Ils ne vont pas dans un musée pour se retrouver comme s'ils étaient avec leur téléphone intelligent. Un rayonnement régional. Dès le lancement de ce projet de musée, des voix se sont élevées pour dire que le mandat de ce musée allait se dédoubler avec le Musée de la civilisation de Québec, qui a aussi le rôle de raconter l'histoire du Québec. Selon Pedneau-Jobin, cette confusion est réglée. La différence est plus évidente qu'elle ne paraît. Le fait social va intéresser le Musée de la civilisation en lui-même. Il va aussi intéresser le Musée national de l'histoire du Québec, dans sa relation au parcours de la nation. Prenons l'exemple du hockey. Ce qui nous intéresse, c'est l'affirmation nationale qui en découle. L'émeute de Maurice Richard est plus importante pour nous que l'évolution du hockey. Maxime Pedneau-Jobin insiste sur une chose. Ce musée ne vivra pas seulement à Québec. Il souhaite lui conférer un rayonnement dans les autres régions du Québec. On aura des moyens que les autres musées ou centres régionaux n'ont pas. Il ne se fait presque plus d'expositions itinérantes. Si on a le leadership d'un musée national, on peut faire des choses ensemble. Ces échanges peuvent aussi se faire grâce aux ressources numériques. C'est pourquoi on veut offrir un volet éducatif pour rejoindre divers publics, notamment les jeunes. Il faut s'inscrire dans l'écosystème. Il faut faire avancer l'amour de l'histoire et la connaissance de la nation québécoise. Conclut Maxime Pedneau-Jobin. C'était « Notre histoire vue par les fenêtres ». Un texte de Mario Girard paru le 11 juin 2025 dans La Presse.
Merci, Monsieur Vigneault, pour le cadeau. Un texte de Boucard Diouf, paru le 21 juin 2025 dans La Presse. Écoutez l'œuvre de Gilles Vigneault a été pour moi une façon de m'approprier agréablement le Québec par le chemin du cœur. Si certaines de ses chansons me touchent jusqu'aux larmes, d'autres me stimulent l'esprit ou me reconnectent à la biosphère. Mais il y a un texte qui me chamboule plus profondément à chaque écoute. Cette chanson, c'est les gens de mon pays. À ne pas confondre avec gens du pays, mon pays, langage mon doux pays ou il me reste un pays, qui sont autant de déclinaisons d'un thème qui habite profondément le poète. Chaque fois que j'écoute la chanson « Les gens de mon pays », je réalise à quel point l'amour du Québec a été un moteur dans la vie de son auteur. Cela dit, même si ce texte me décroche une larme à tout coup, mon envie d'apprendre le Québec a été plutôt catalysée par la chanson « Mon pays ». Depuis cette découverte musicale, j'essaie de mieux comprendre le pays de Gilles Vigneault. Si bien qu'aujourd'hui, il cohabite harmonieusement avec mon Sénégal natal. J'ai bien dit « harmonieusement », car même hissé bien haut au sommet de sa fierté, son drapeau ne fait jamais ombrage à ma différence. Après toutes ces années passées sur les battures du Saint-Laurent, le pays de M. Vigneault m'a appris que pour danser ses plus beaux rigodons, mieux vaut éviter de se marcher sur les pieds. Pour apprécier ses légendes, on doit accepter de faire partie de son histoire. Et pour répondre à ses chansons, il faut faire écho à la voix de ces gens. J'arrive maintenant à sentir le Québec en moi. En fait, notre intégration est mutuelle. Et au début de cet apprivoisement bidirectionnel, il y a une invitation de M. Vigneault que je croyais m'être personnellement destinée. Elle disait ceci. « De ce grand pays solitaire, je crie, avant que de me taire, à tous les hommes de la terre, ma maison, c'est votre maison. Entre ces quatre murs de glace, je mets mon temps et mon espace à préparer le feu, la place, pour les humains de l'horizon, et les humains sont de ma race. » C'est ce plaidoyer pour l'ouverture et l'accueil qui m'a donné le goût de préparer cette chaleureuse place que le Québec occupe à côté de mon africanité. Depuis 33 années d'immersion m'ont hybridé l'identité. Entre mes racines africaines et mon feuillage québécois se dresse mon tronc sénégalais de baobab recomposé. Chaque fois que je me sens bouleversée par la chanson « Les gens de mon pays », je réalise à quel point s'approprier une autre culture est une enrichissante addition. S'intégrer ainsi à une nouvelle culture équivaut à lire un livre plusieurs fois. Généralement, la première lecture, c'est pour se familiariser avec les personnages. À la deuxième lecture, on s'intéresse davantage à l'histoire. Mais après la troisième lecture, si on arrive à raconter cette histoire avec passion, c'est qu'elle est aussi devenue la nôtre et les personnages des membres de notre propre famille. La sensibilité à la poésie de Vigneault rappelle délicieusement la profondeur de cet enracinement. Je porte le territoire et l'histoire de tous ces gens de paroles et de causeries qui peuplent le pays de M. Vigneault. Cette identité recomposée est l'aboutissement d'un long chemin initiatique. Dans les années 1990, l'envie de mettre le pied dans son village d'origine m'avait poussé à prendre la route, avec deux amis, vers la Mingani. Quelques kilomètres après Havre-Saint-Pierre, la sagesse nous a cependant imposé d'écouter plus activement les signaux provenant du moteur de la vieille carcasse qui devait nous amener à bon port. Nous sommes donc revenus à Rimouski sans jamais voir Natashquan. Depuis, je suis retournée quelques fois à Havre-Saint-Pierre, mais aller jusqu'au village de M. Vigneault est resté un rêve inachevé. Du moins, jusqu'au début du mois d'octobre 2024. J'ai eu alors le privilège d'être invité par M. Vigneault à Natashquan pour une rencontre bien particulière. Je devais l'accompagner sur la terre de ses ancêtres pour le tournage d'un documentaire produit par Déferlante. Sur place, nous avons parlé abondamment d'enfance, de famille, de bateaux, de spiritualité, d'exil, de langue, de culture, de création, d'éducation, de pêche, de relations avec les Innus et de bien d'autres sujets. Nous sommes aussi allés saluer les disparus qui reposent dans le petit cimetière près de l'église. Avec la précision d'un GPS, il se rappelait l'emplacement des tombes de tous les gens qui ont marqué sa jeunesse et dont certains ont été immortalisés dans des chansons comme « La danse à Saint-Dilon ». Nous avons aussi abondamment parlé de création et de poésie. Après ce retour au pays du poète prodige, pour conclure notre discussion, il m'a invité chez lui, à Saint-Placide, avec la bénédiction de ses deux complices, à qui je dois une énorme reconnaissance, sa femme, Alison Foy, et sa gérante, Suzanne Beaucaire. Je parle ici de gratitude, car elles m'ont offert le privilège de faire cette rencontre marquante avec un être dont les créations me font du bien. Pour moi, l'œuvre de M. Vigneault est une ode au Québec, à ses racines profondes, à ses hivers rudes et à ses espoirs tenaces. Comme écologiste, je vois aussi son travail de créateur comme un inspirant plaidoyer pour le respect du caractère sacré de la biosphère. Dans les élans de tendresse du grand poète, habité par les espoirs d'un peuple qu'il est, Vigneault a chanté l'amour, la terre, la mer, la liberté, les lacs, les rivières, les oiseaux, les arbres, les poissons et plus encore. Sa poésie fait écho à une histoire profondément enracinée dans la nordicité et le désir farouche d'un peuple d'exister et de perdurer. Trait d'union entre le passé, le présent et les rêves, M. Vigneault a donné aux Québécois une voix qui leur ressemble et qui les rassemble. Son œuvre est devenue par défaut le manifeste d'un peuple façonné par ses vagues à l'âme, comme les galets sur les rivages de la Manganie. Ce que l'immigrant que je suis a aussi adoré chez Gilles Vigneault, c'est que bien avant la mode, il a toujours été tourné vers l'avenir et a plaidé pour l'ouverture. Son pays, il le veut indéniablement pluriel et tolérant. Sur la route de Natashquan, l'équipe technique et moi avons mangé au restaurant chez Julie, à Havre-Saint-Pierre. La gérante est venue me voir après le délicieux repas pour me dire à quel point, sans ses employés originaires de l'Afrique, son restaurant aurait déjà fermé. À Natashquan, nous avons été accueillis à l'auberge par un monsieur originaire du Cameroun qui a commencé tout de suite à me parler de l'œuvre de M. Vigneault. Une petite escapade dans l'épicerie du village m'a fait rencontrer un autre jeune employé d'origine africaine qui s'activait dans les étals. À l'heure du souper dans l'auberge, notre voisine de table était une jeune ingénieure d'Hydro-Québec, originaire du Bénin. C'est aussi ça le Québec d'aujourd'hui. Cette marche de son pays vers une société de plus en plus plurielle, M. Vigneault l'accueille avec sagesse dans sa chanson intitulée « On ne sait jamais ». On ne sait jamais qui frappe à la porte. On ne sait jamais ce qu'il nous apporte, cet étranger, le voyageur. Il ne faut pas fermer son cœur. Il ne faut pas fermer son cœur à l'étranger, au voyageur, qu'il vienne à midi ou par nuit sans lune, qu'il soit cousu d'or ou bien sans fortune. Gilles Vigneault m'a ouvert largement son cœur pendant cette escapade. Il m'a même fait visiter la modeste résidence de ses parents et le bateau de pêche de son père, qui repose encore dans ces cabanes de bord de mer qui sont posées sur les galets. Parallèlement à notre voyage, beaucoup d'artistes ont revisité ces chansons et lui rendent hommage de façon émouvante dans ce documentaire. Ces pièces marquantes de son œuvre ont été reprises par des artistes de tous horizons, Lou Adriane Cassidy, Louis-Jean Cormier, Kathleen Fortin, Mathieu, Ariane Moffat, Michel Rivard et Richard Séguin. Je vous invite à vous replonger dans l'histoire de ce poète qui sait plus que quiconque sentir et chanter les joies, les peines, les peurs et les espoirs de son peuple. J'ai été élevée par une maman qui disait souvent « Si tu veux remercier quelqu'un du fond du cœur, fais-le de son vivant. » Alors merci, Monsieur Vigneault, car aujourd'hui, quand j'écoute les gens de mon pays, je sens qu'on y parle aussi de mes enfants qui ont des racines sénégalaises et québécoises, mais aussi acadiennes, comme vos ancêtres originaires des îles de la Madeleine, venus s'installer en 1855 près de l'embouchure de la rivière Natashquane. Votre œuvre nous bouleverse parce qu'elle est portée par une sincérité rare. En mettant des mots sur ce que tant de cœurs ressentent en silence, vous avez passé votre vie à rappeler, à juste raison, que la culture et la langue sont les souffles sans lesquels tout finit par s'effondrer. C'était « Merci, Monsieur Vigneault, pour le cadeau », un texte de Boukhar Diouf, paru le 21 juin 2025 dans la presse.
Sous les corps brisés des femmes. Une chronique d'Elsa Pépin, parue le 10 juin 2025 dans Les Libraires. Certains livres confirment la fonction essentielle de l'écrit, révéler les voix et les souffrances invisibles. C'est le cas de deux femmes au destin brisé, aux forces vives, empêchées par la violence des hommes, qui nous intéressent ici. La première s'appelle Elisabeth. Adèle Yon, sa petite-fille, nous raconte l'enquête qu'elle a entreprise au sujet de sa mystérieuse arrière-grand-mère qu'on surnommait Betty. Premier livre hybride et inclassable, « Mon vrai nom est Elisabeth » prend la forme d'une enquête familiale autour du fantôme de l'aïeul, interné sous contrainte de 1950 à 1967 dans un hôpital psychiatrique où elle subit des électrochocs, des cures de Sakel et une lobotomie après un diagnostic de schizophrénie. Or, le silence règne dans la famille dès qu'on évoque son nom. L'autrice commence à s'intéresser à Betty vers l'âge de 20 ans, alors que sa famille lui dit d'éviter les drogues et les émotions fortes sous prétexte qu'elle favoriserait l'apparition de troubles mentaux, comme si la maladie de son arrière-grand-mère était héréditaire. Betty était le nom d'une peur qui n'avait pas de corps, écrit-elle. Dans une démarche menée avec empathie, humour et rigueur, Adèle Yon engage un dialogue avec les membres d'une famille rébarbatif à parler, mais qui s'ouvre progressivement. Le suicide de Jean-Louis, fils de Betty et grand-oncle de l'autrice, ouvre une brèche dans l'omerta familiale et vient achever, comme un point d'orgue, un suicide social scrupuleusement fabriqué depuis 50 ans. Variant les types de narration, narration à la première personne, documents d'archives, correspondances, transcriptions d'entrevues, rapports psychiatriques, photos, l'autrice crée un texte aux airs de thriller et au montage très cinématographique qui juxtapose les scènes et les couches de sens pour former un labyrinthe rappelant celui où fut enfermée Betsy. Lié à une thèse de doctorat sur le double féminin fantôme au cinéma, l'enquête intime se mêle à l'histoire de la médecine psychiatrique. Ce qu'on découvre est digne d'un film d'horreur. Betsy aurait été internée parce qu'elle dérangeait son mari, ne rentrait pas dans le moule. Officiellement, pour trouble thymique avec intolérance aux contraintes sociales, familiales ou autres. À force de recherches approfondies dans les archives psychiatriques, on découvre une femme dont la force du tempérament dérange, qu'on arrache à ses enfants pendant 17 ans et qu'on contraint de refaire des enfants alors qu'elle souffre de dépression postpartum. Aussi brillant que terrifiant, le roman dévoile un monde de maltraitance et de préjugés sexistes véhiculés par la médecine psychiatrique de l'époque. De nombreuses femmes qui sortaient du cadre, ne faisant pas de bonnes mères ou de bonnes épouses, furent réduites au silence léthargique par la lobotomie, qui se situe dans une zone grise entre la réparation et la punition de comportement qui, dans tous les cas, incommode une société patriarcale et traditionnelle, déplore Ion, rappelant qu'on jugeait l'opération réussie quand elle anéantissait les volontés de la victime. L'autrice rétablit la mémoire de son arrière-grand-mère, brisée sous le coup de 6 maternités imposées, et lui rend sa dignité, redonne une voix et un visage à ses souffrances cachées. Celle qui était devenue pour sa famille une non-personne, démolie par un système, occultée, toujours en creux dans le livre, finit par entrer en scène à la fin du livre, alors qu'Ion écrit une version de son histoire qui pourrait être la sienne, la vraie. Justice rendue par un admirable et fin travail de réhabilitation. Le royaume d'une fille de misère. Pour son premier roman, l'auteur haïtien Henri Quénol met également en scène une fille brisée dont le corps porte les violences d'une société malade. Le désespoir des anges raconte le régime de terreur instauré par des gangs armés qui ont pris le pouvoir dans les cités bidonvilles en Haïti dans les années 2000. La narratrice, Lina, vient des cités et se dit, du haut de ses 28 ans, demi-morte, nous décrivant son corps de mémoire balafrée, couvert de cicatrices, qui raconte les violences subies, la faim et la peur quotidienne dans la cité. Sous la forme d'un dialogue avec une bourgeoise qui gère un hôtel de passe dans les beaux quartiers, cette fille de misère nous décrit son viol commis par le fils de la patronne et ses amis alors qu'elle avait 15 ans et que sa mère était servante dans une famille de riches. L'agression constitue le début d'une vie marquée par l'injustice, la colère et un goût de vengeance. Devenue reine de la cité, maîtresse du chef d'un gang des plus sanguinaires, Lina accède au pouvoir, mais connaît un autre enfer qui se déploie sous nos yeux dans un théâtre terrifiant et cruel. Sous le joug des gangs, la population est torturée, les enfants abandonnés et taxés d'intouchables, vivant comme des bêtes, puis devenant enfant-soldat. Si ce roman dur et brutal prend des airs apocalyptiques, l'écriture viscérale et colorée d'expression créole d'Henri Quénol insuffle au livre une énergie puissante et lumineuse, celle-là même qui bouillonne chez l'héroïne. Lina n'a rien d'une victime, résiste de tout son être, habitée d'une rage intérieure immense et d'une lucidité hors du commun. Mon corps est le terrain sur lequel des centaines d'hommes m'ont livré bataille, sans jamais avoir réussi à me réduire. Lance, celle que rien ne peut anéantir. Quénol allie sensualité, horreur et lyrisme, inspiré dans un texte où il saisit avec justesse la psyché d'une femme happée par une spirale infernale, mais qui jamais n'abandonne. Leçon d'humanisme, hommage à la solidarité des gens plongés dans la misère et l'horreur, ce livre rappelle que nous sommes tous égaux devant la souffrance. Proxénète, gens du monde, bourgeois, pauvres, chefs de gang, tous y passent. La violence n'exclut aucune classe sociale, mais la barbarie la plus sanguinaire ne peut détruire le monde intérieur des gens qui résistent. Au cœur même des ténèbres palpite un cœur, une pensée, une force, à celle qui, comme Lina, sait se réfugier en son propre royaume. C'était « Sous les corps brisés des femmes », une chronique d'Elsa Pépin, parue le 10 juin 2025 dans Les libraires.
35 ans de la descente du party Sex Garage. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 19 juin 2025 dans le magazine Fugue. Dans la nuit du 15 juillet 1990, des dizaines de policiers casqués, sans insigne ni numéro d'identification et armés de matraques, font irruption dans le loft où 400 personnes, plus particulièrement des gays et des lesbiennes, les termes queer ou LGBTQ+, n'existent pas à l'époque, font la fête et s'amusent au son d'un DJ. L'ambiance est très festive quand les policiers déclarent ce party illégal et poussent les fêtards à l'extérieur où les attendent d'autres policiers. Ceux-ci interviennent violemment et battent plusieurs personnes. L'artiste photographe Linda Down Hammond est là avec son appareil et prend des clichés qui ne laissent rien au hasard. Les photos de Hammond seront d'ailleurs publiées le lendemain dans les quotidiens The Gazette et La Presse. Ce sera la bougie d'allumage pour l'obtention de la reconnaissance des droits et le droit à la différence, justement. Il faut faire un peu d'histoire, ici, puisque parmi les jeunes générations, plusieurs n'ont sûrement jamais entendu parler de cet événement-là. Violence policière et arrestation. 9 fêtards sont arrêtés cette nuit-là. Les insultes homophobes proférées par les policiers ne laissent aucun doute. Par contre, les motifs de la descente, eux, ne sont pas clairs du tout. La police de Montréal évoque plusieurs explications différentes, notamment des plaintes pour bruit, alors que personne ne réside sur cette rue, des soupçons de vente illégale de boissons alcoolisées et une demande d'assistance du promoteur de l'événement, ce qui est faux, pouvait-on lire dans le Fugue à la fin de l'été 1990. L'escouade de la moralité ici qu'on pourrait qualifier, à l'époque, plutôt de police des mœurs. C'est la goutte qui fait déborder le vase ici. Le soir même du 15 juillet, une manifestation se produit au coin des rues Sainte-Catherine-Est et Amherst, maintenant à Tatéken. Plusieurs centaines de personnes bloquent la rue et réclament de parler au chef de police, Alain Saint-Germain. Les manifestants veulent une enquête sur la brutalité policière et que les charges contre les personnes arrêtées soient abandonnées. Par l'entremise du militant Douglas Buckley Couvrette, une figure marquante de la lutte contre le VIH et les droits gays et lesbiens dans les années 1990, ils obtiennent finalement une rencontre avec le chef de police. Le lendemain, le 16 juillet, entre 250 et 300 personnes se massent devant le poste de police 25, au coin des rues Saint-Mathieu et de Maisonneuve, en espérant pouvoir s'adresser au chef Alain Saint-Germain. Il y avait des tireurs de la police postés sur le toit de l'édifice qui avaient dans leur mire la foule assise par terre. C'était une vision ahurissante parce que tout le monde était pacifique, assis par terre. Il n'y avait pas de violence des manifestants. C'est la police qui avait une attitude violente, souligne René Leboeuf, photographe à l'époque et membre du groupe ACT UP Montréal. Rappelons que le cofondateur de l'organisme ACCM et animateur de l'émission Homo Show sur les ondes de CKUT, David Shannon, est l'un des initiateurs de cette manifestation contre la violence policière. Comme on peut s'y attendre, le chef Saint-Germain ne s'est jamais présenté. On déclenche ainsi un sit-in et un kiss-in. La police intervient, elle use de matraques sur les protestataires, elle traîne plusieurs par les cheveux devant les caméras de télévision. Plus d'une quarantaine de personnes sont arrêtées. Certains individus sont battus tellement fort qu'ils nécessitent une hospitalisation. Le 30 juillet, une manifestation est organisée devant l'Hôtel de Ville de Montréal. Les manifestants marcheront ensuite du Vieux-Montréal jusqu'au parc La Fontaine, où on entendra des gens venus appuyer les gays et les lesbiennes. Il y avait Sam Bosquet, qui était un conseiller municipal, district Snowden, de Montréal, du Parti de la gauche, la Coalition démocratique, dans le temps du RCM, du maire Jean Doré, et qui représentait les conseillers de gauche au conseil municipal de l'époque. Le comédien très connu Jacques Galipeau a lu un message de solidarité du poète Gérald Godin et de la chanteuse Pauline Julien. Galipeau était le premier mari de Pauline. Paula Sipnovitch était porte-parole d'ACT UP Montréal et des personnes arrêtées et battues devant le poste de police 25. Ces trois personnes étaient les plus importantes à prendre la parole cette journée-là, de souligner René Leboeuf. Le groupe Lesbiennes et gays contre la violence, LGV, voit le jour et réclame une enquête sur la violence exercée par la police, la libération des personnes arrêtées et que la ville de Montréal crée un siège pour les gays et lesbiennes au comité municipal responsable des relations entre les minorités de la population et la communauté urbaine de Montréal, CUM. On veut que l'Assemblée nationale se saisisse du dossier de la descente. À Douglas Buckley Couvrette s'ajoutent donc des gens comme Roger Leclerc, Michael Hendricks et René Leboeuf, Claudine Metcalfe, Jean-Michel Lagacé, David Shannon et d'autres encore. Certains militent déjà au sein d'ACT UP Montréal qui défend les droits des personnes atteintes du sida, des hommes gays pour la plupart. Vous écoutez 35 ans de la descente du party Sex Garage, un texte d'André-Constantin Passiour paru le 19 juin 2025 dans le magazine Fugue. Des assassinats homophobes. Entre-temps, plusieurs meurtres à caractère homophobe se produisent dans la métropole. Y aurait-il un tueur en série? Le modus operandi est le même alors qu'on retrouve des hommes gays assassinés. Le SPCUM, Service de police de la communauté urbaine de Montréal, ne semble pas prendre la thèse d'un tueur en série très au sérieux. Le LGV insiste pour que la police investigue de manière plus approfondie ces meurtres-là. En quelques années, on pense qu'il y a eu jusqu'à une douzaine d'homicides. Les pressions sont fortes. Les gays étaient traités comme des « nobody », des pervers, des moins que rien, continue René Leboeuf. La police n'entreprenait pas d'enquête sur les meurtres de ces pervers, ne les reliait pas les uns aux autres. Ces meurtres ne les intéressaient pas vraiment à ce moment-là. En août 1993, pour souligner l'anniversaire de la descente de Sex Garage et en réponse aux nombreux homicides, Puelloder et Suzanne Girard organisent la toute première marche de divers cités que l'organisme produira jusqu'en 2006 avant de se consacrer au festival culturel. Un aboutissement vers des consultations publiques. Mais le temps passe. Finalement, les négociations aboutissent et l'on obtient des consultations publiques. Du 15 au 22 novembre 1993, la Commission des droits de la personne du Québec, appelée aujourd'hui Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, tient des audiences publiques sur la discrimination basée sur l'orientation sexuelle, sur la violence, etc. Plusieurs dizaines de membres et organismes de la communauté y participent. De la table de concertation des gays et lesbiennes du Grand Montréal au groupe juif Yagdav, en passant par la CSN, Confédération des syndicats nationaux, Conseil central de Montréal, ou encore Gay Écoute, aujourd'hui Interligne, et le défunt avocat Noël Saint-Pierre, entre autres. La commission est présidée par Fauniemi, qui est, également, président du comité interne de la CDPQ chargé du dossier de la discrimination envers la communauté lesbienne et gay. En mai 1994, la commission remet un important rapport intitulé « De l'illégalité à l'égalité », qui contient 41 recommandations touchant plusieurs aspects des discriminations contre la communauté homosexuelle, dont la reconnaissance des conjoints et conjointes de même sexe, chose qui se fera au Québec en 2004. Malgré tout cela, en 1994, le bar Cox Catacombe est la cible d'un autre raid de l'escouade de la moralité. Cette fois-ci, plus de 170 hommes avaient été arrêtés, mais avec moins de brutalité que durant Sex Garage. La rumeur courait à l'époque que c'était une vengeance de la part de la police pour les audiences, les consultations publiques et les pressions exercées sur elle au sujet des meurtres en série et de la brutalité policière. Mais on n'a jamais su si c'était vrai ou non, souligne René Leboeuf. Une exposition pour se souvenir. Sex Garage, 35 ans plus tard, est le titre d'une exposition aux Archives gays du Québec, AGQ, qui retrace les événements de cette époque-là. Du 15 juillet au 15 septembre, avec des photos, des coupures de journaux, des affiches, etc., cette exposition cherche à expliquer les événements qui se sont produits et comment cela a changé la vie des gays et des lesbiennes de Montréal à cette époque-là, note René Leboeuf. Le tout est en collaboration avec Fierté Montréal et dans l'espace Desjardins du quartier latin. Plusieurs éléments proviennent d'ailleurs du fonds Michael Hendricks et René Leboeuf, ainsi que du fonds du militant décédé Douglas Buckley Couvrette, des photos d'André Query, en plus des nombreuses archives des AGQ. Cette exposition se divise en deux temps. D'abord, des panneaux situés aux archives, ensuite d'autres sur une colonne Morris située près du Parc de l'Espoir, au coin des rues Panet et Sainte-Catherine. Beaucoup de gens sont décédés à présent et ne peuvent plus ainsi témoigner de ces moments-là, malheureusement. Donc, cette exposition veut raconter cette histoire-là de ce qui s'est passé réellement, des multiples rencontres, du mouvement qui s'est créé et tout ce qu'il y a eu par la suite. Ce fut un vaste mouvement. On n'aurait pas des droits aujourd'hui si toutes ces personnes ne s'étaient pas battues pour les obtenir et faire face à la violence et à l'homophobie, indique René Leboeuf, qui, avec son conjoint Michael Hendricks, sont les commissaires invités de cette exposition. Ça va être intéressant pour les jeunes qui ne connaissent pas cette histoire-là, poursuit René Leboeuf. Michael et moi, on pensait faire une exposition comme celle-ci depuis déjà quelque temps. Puis on en a parlé à Pierre Pilote, le coordonnateur des archives, et à Simone Baudry-Pilote, qui est archiviste. Pierre et Simone ont trouvé que c'était une bonne idée de pouvoir mettre sur pied cette exposition d'un point de vue social et historique. Les gens des archives ont été emballés par cette idée d'exposition, commente pour sa part Pierre Pilote. C'est un sujet important pour nous tous, et pour les jeunes en particulier, pour qu'ils sachent que nos droits n'ont pas toujours été reconnus. Le sida est venu en rajouter une couche alors que beaucoup d'hommes mouraient, et ce, en plus des meurtres qu'il y a eu. Nos droits ne sont jamais totalement acquis. On voit bien ce qui se passe chez nos voisins du Sud avec Donald Trump, malheureusement. Les gens et les jeunes ne réalisent pas à quel point les gens de la communauté avaient été maltraités à l'époque. C'était terrible, la discrimination, la violence, la brutalité policière, etc., confie René Leboeuf. J'ai participé à des marches et à des activités pour les droits, continue Pierre Pilote, qui évoluait dans le domaine de la culture et de l'art contemporain à ce moment-là. Je ne sais pas si Sex Garage a été la bougie d'allumage pour le combat de l'obtention des droits, mais je sais qu'on a fait plusieurs marches à cet effet-là qui ont abouti à la fameuse consultation. Il ne faut pas l'oublier non plus, la descente de Sex Garage survient dans le contexte déjà très tendu de la crise d'Oka, alors que les policiers de la Sûreté du Québec et les Warriors Mohawks de Kanisatake se font face au sujet de l'expansion du Golfe. Toute cette exposition a été montée par la main experte de l'infographiste Jean Logan, qui est aussi membre du conseil d'administration à titre bénévole depuis près de 30 ans maintenant. Info. Cette exposition se déroulera du 15 juillet au 14 septembre, de 13h à 17h, du mercredi au samedi aux Archives gays du Québec, 1000 rue Atatéken à Montréal. Téléphone 514-287-9987 ou site web ajq.qc.ca. C'était 35 ans de la descente du party Sex Garage, un texte d'André Constantin Passiour, paru le 19 juin 2025 dans le magazine Fugue.